Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour à tous mes amis et bon dimanche, que vous soyez en vacances ou non. Eh oui, oui, tout le monde n'est pas en vacances. Tout le monde n'a pas cette chance d'être parti en vacances et notamment en vacances de neige, hein, parce qu'il y a de la neige sur nos massifs français et que partout en montagne, on skie. Et pas seulement en France, en Chine également, vous le savez, hein, c'est la fin hein, aujourd'hui. J'ai profité de cette double actualité, les JO de Pékin avec des résultats formidables et les vacances de neige pour faire un sujet autour de la montagne et quoi de mieux que le fromage. Et oui, parce que quand on pense montagne, quand on pense gastronomie de montagne, cuisine de montagne, tout de suite on pense fromage. D'ailleurs, le fromage, c'est aussi bien à cuisiner en hiver. Voilà pourquoi on va accoler, je dirais, les fromages de montagne de différentes régions de montagne aux médailles glanées par nos athlètes français. Et on démarre tout de suite du côté du Jura. Au téléphone avec moi ce matin, un grand monsieur du Jura, Jean-Charles Arnaud. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Alors Jean-Charles, merci d'être avec nous ce matin au téléphone. Je vous ai appelé pour deux raisons. D'abord parce que vous êtes un des rois du comté dans le Jura avec ce fameux fort des Rousses qui a des caves d'affinage. Combien de kilomètres de caves d'affinage chez vous déjà en sous-sol?
Exactement, je ne sais pas, mais au moins une dizaine de kilomètres.
Oui. Au moins une dizaine de kilomètres de caves. Oui. Ça vous laisse rêveur. Hein, quand on entend ça et qu'on ne connaît pas. Et puis, je voulais démarrer avec le Jura pour fêter notre champion jurassien, Quentin Fillon-Maillet, qui a glané tellement de médailles et que vous connaissez bien. Hein, c'est un gars presque du pays. C'est à côté des Rousses qu'il habite.
Ah, c'est pas presque du pays.
Il est du pays.
Quentin, c'est un voisin. Oui, il est à 9 km du fort. En été, il vient en ski à roulette. Là, c'était la tranche jurassienne le dimanche dernier, donc elle passe devant la porte du Fort des Rousses.
Ouais.
Donc oui, c'est un vrai jurassien, vraiment, oui.
Et du coup, vous avez fêté avec ses parents. Vous étiez à regarder ensemble au village natal les exploits de Quentin, non?
Pour trembler, pour vibrer, pour applaudir, voilà, parce qu'on était hyper tendus, quoi. Hein. Alors... Mais c'était tellement beau.
Et libérateur hein, quand il a évidemment gagné pour toutes ces épreuves de biathlon. Alors, le biathlon, c'est vraiment un sport du coin. Après, on va parler de vos fromages. Mais juste un dernier mot, il faut se dire qu'il y a un plateau qui est le bout de la vallée de Joux suisse du côté français, à côté des Rousses. Et donc, le ski de fond et le tir, parce que vous êtes un ancien instructeur commando. Donc, vous êtes aussi un peu à la croisée des deux, entre le tir et le ski de fond.
À la croisée des deux, oui. Mais un petit tireur, hein. J'ai voulu me mesurer à Quentin il y a quelques temps, mais la raclée était sérieuse.
Alors, en revanche, vous avez emporté des médailles, Jean-Charles Arnaud. Il faut le signaler, parce qu'il n'y a pas que les médailles olympiques de nos skieurs et de nos biathlètes. Il y a aussi la médaille du meilleur fromage du monde, presque dans le même temps. C'est incroyable.
Oui, il y a vraiment une correspondance surprenante. Et puis, moi qui me réjouis pour tous ceux et toutes celles qui travaillent dans l'entreprise, 365 jours par an. Et c'est vrai qu'à Lyon, il y avait 1053 produits laitiers, du fromage blanc.
De tout genre, alors fromages.
Ah, de tout genre.
Ouais,
des
pâtes
très dures, voilà. Mmh. Et sur les 1053 fromages, on a obtenu de 11 pays différents. Mmh. On a eu la note de 99 sur 100.
Mais
avec notre comté du Fort des Rousses.
Et c'était quoi comme affinage, votre comté que vous avez présenté?
C'était un 18 mois. Moi, j'estime que dans le fort, dans nos caves voûtées, c'est là où on arrive à avoir le plus de complexité.
D'accord.
On passe au moins par 3 saveurs.
Oui.
Et c'est ce qui a finalement apparemment séduit ce jury pour lui donner cette note exceptionnelle de 99 sur 100.
Alors c'est intéressant, vous qui êtes un des grands spécialistes du comté, bien entendu, vous êtes né dedans et puis vous continuez. Vous êtes en train de nous dire que ça ne sert à rien d'attendre 2, 3, voire 3 ans et demi pour un comté. C'est pas là qu'il est optimal?
Alors,
c'est chacun son goût.
J'ai un comté, c'est quelque chose de vivant. Donc, il faut le faire grandir pour l'amener effectivement à sa pleine maturité.
Nous,
dans nos voûtes de pierre, mais un fromage peut passer dans 6 ou 7 caves différentes pendant 18 mois, recevoir au moins 100 soins, voilà, sans retournement, emmanchement. Et je trouve qu'à entre 18 et 20 mois, là, on a une complexité aromatique.
Ah bah voilà.
Ah oui, fabuleuse, quoi. Bah
c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et alors, en plus, je me suis laissé dire, j'ai vu des photos, en fait, qu'il y avait une série spéciale de comtés pour Quentin Fillon-Maillet, enfin, à son nom, à son effigie.
Ah, alors ça, c'est un secret jurassien. C'est un double secret parce qu'on est allé avec Quentin fabriquer donc, à la fromagerie du Haut-Jura, où on fait comté Blue Jacks, des fromages il y a 18 mois. Mm-hmm. Et je lui ai dit, écoute, ces fromages, tu vas les emmener effectivement donc à Pékin. Ça sera l'énergie pour aller gagner effectivement donc, des médailles.
Ah bah ça lui a bien servi.
Et je lui ai dit, ça nous servira pour en gagner aussi. Et c'est fou qu'effectivement, 18 mois après, on est effectivement ce résultat, quoi.
Mais attendez, mais ça veut dire qu'il les a emportés comment dans sa valise? Il y avait un bagage spécial ou quoi?
Oui, je ne sais pas si je dois le dire, mais on
a... Oh bah les jeux sont finis maintenant, ça ne risque plus rien. Hein. Oui. Dites-moi, il y a eu de la contrebande?
Oui, on peut dire ça comme ça, parce qu'on a bricolé une de ces valises de carabines de tir.
Mais non.
Pour faire un double pont. Et on a placé donc des portions, effectivement, de nos comtés Juraflore.
C'est dingue.
Sous le niveau vêtement.
Vous avez fait une Carlos Ghosn avec vos pointes de comté, quoi.
C'est plus sympathique, quand même. Hein. Et quand Quentin a passé la douane, il m'a dit, c'est bon, j'ai passé la douane.
Ah, voilà. Génial. Non, mais c'est dingue. Et donc, vous pouvez témoigner du fait qu'il a eu sa petite dose de comté tous les matins avant d'aller s'entraîner ou avant les épreuves, quoi.
Portion magique du Fort des Rousses. Voilà, oui, il avait ça, quoi. En toute clandestinité.
Alors, je rappelle que le comté, c'est un fromage d'AOP, hein, et évidemment, le Jura est l'épicentre du comté. Alors, donc, c'est son produit. Pourtant, sa famille, elle ne travaille pas dans le comté, elle ne travaille pas dans le fromage. Hein. Ils sont plutôt dans le bois. Hein.
Exactement. Ce sont des artisans, ce sont aussi des moniteurs de ski dans sa famille, et notamment sa maman. Ouais. Mais Quentin est aussi quelqu'un qui a ce sens du travail. Il s'est fabriqué lui-même sa crosse de carabine en bois. Ah oui.
À la main, quoi. Vraiment comme un petit artisan de la forêt.
Exactement. Il s'est fait pour lui à sa morphologie, en fait, et puis effectivement en artisan.
Rappelez-nous, au Fort des Rousses, combien de meules environ? Plus de 100 000 en
c'est
tout
ça,
cas
c'est ça, et on a trouvé de nouveaux sites terrains et on va pouvoir encore augmenter.
Vous continuez à creuser?
Là j'ai fait quelques découvertes tout à fait étonnantes, là, pas complètement par hasard. Au cours, effectivement, de travaux, on a découvert des salles absolument fabuleuses, quoi.
Alors, j'en profite, évidemment, ceux qui vont passer, là, pendant les vacances d'hiver, du côté du Jura, vont pouvoir visiter, parce que ça se visite, les caves du Fort des Rousses. Hein, il y a une visite absolument passionnante. Un dernier mot, un petit secret de Jurassien, parce que je me pose sur la question, et on me la pose souvent, pourquoi est-ce que dans l'Emmental, il y a des trous, et que dans le comté ou le Gruyère suisse, il n'y en a pas? Qu'est-ce qui fait ça?
Alors foncièrement, ce qui est à l'origine, disons, de l'ouverture, on appelle ça comme ça dans notre jargon, les trous dans un fromage, ce sont des ferments propioniques.
Des ferments,
naturellement, voilà.
C'est ce qui va faire fermenter le lait, quoi, oui.
Qui va consommer le sucre, ils vont consommer le sucre, et la consommation donc du sucre va entraîner un dégagement de gaz.
Comme pour le vin,
dans
alors
l'Emmental, c'est très proche.
Ah oui, d'accord.
On peut dire que finalement, on a autant de différence entre un litre de lait où il y a du sucre et un kilo, effectivement, de comté, par exemple, où il n'y a plus du tout de sucre. Et alors, une grappe de raisin et le vin.
Jean-Charles, je vais faire simple. Si on ferme le fromage, les bulles restent à l'intérieur, comme dans un Emmental, par exemple. S'il est ouvert, ça, c'est pour une bouteille de champagne, par exemple. Mais si on ouvre le vin, les cuves, eh ben, ça fait blou-blouk et les bulles sortent.
C'est exactement ça. Exactement
c'est
ça. Et
dingue.
L'ingrédient supplémentaire, il faut une pâte qui soit souple pour supporter la déformation.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en Emmental, on a plutôt une croûte sèche pour bloquer les gaz à l'intérieur.
Comme dans le pain, avec les alvéoles.
Oui.
Parce que tout ça, pain, vin, fromage, c'est un peu le même phénomène de fermentation qui fait des bulles.
Absolument, là, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça, oui.
Bon, mais merci beaucoup Jean-Charles. Encore bravo pour votre prix de meilleur fromage du monde. Hein, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça vaut bien une ou deux des médailles de Quentin Fillon-Maillet. On vous embrasse et on dit bravo le Jura. Hein.
Alors,
je suis pas chauvin.
Vous,
hein. Et à très bientôt. On va changer de région, on va aller du côté des Vosges, parce que là aussi, il y a eu des médailles, tout de suite après la pub.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Mes amis, nous avions démarré cette émission spéciale fromage de montagne pour coller à l'actualité des JO de Pékin qui se terminent et des vacances qui ne sont pas terminées, les vacances de neige notamment. Donc on va continuer avec nos médailles françaises et je parle là d'un Vosgien. Vous le savez bien, cette belle surprise que nous a fait Clément Noël. Et j'ai en ligne un fromager du Grand Est, un fromager alsacien, mais qui touche au massif vosgien, c'est Cyril Laureau. Bonjour Cyril.
Bonjour Vincent.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous l'avez compris, Cyril, le jeu, parce que j'étais à l'instant avec Jean-Charles Arnaud du côté du Fort des Rousses, le jeu, c'est de coller un petit peu les fromages aux médailles des Français. Bon, alors, Clément Noël, il nous a fait un grand, grand show et un grand plaisir en slalom. Je suppose que toute la région était en ébullition.
Ah, tout le monde est très, 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 très fier.
Bah ouais, hein.
D'autant, très, très, très fier.
D'autant, ouais. Cyril, qu'il faut bien le dire, c'est rare, au milieu de, on va dire, 50% de skieurs qui viennent de Savoie et de Haute-Savoie, il n'y a pas, même s'ils s'entraînent à Val d'Isère, ok, oh, oui. Mais il est natif des Vosges, et c'est rare un champion vosgien.
Il est natif du Ménil, du côté de Ventroux, en plein cœur du massif, et... En plein cœur, c'est un pays de fromage, Ventroux.
Ah oui, oui, c'est d'ailleurs pour ça, vous qui êtes mof fromager, vous allez puiser là-bas quelques merveilles. Alors, côté alsacien, ça s'appelle le Munster, mais côté lorrain, côté du département des Vosges, comment on l'appelle ?
Le Géromé.
Le Géromé. C'est le même fromage, en fait, le Géromé et le Munster ?
On pourrait dire que c'est des frères.
Oui, oui.
Il y en a, alors on va parler du côté le Munster, côté vosgien, alsacien, parce qu'il vient alsacien.
Mais c'est le massif des Vosges, on peut dire vosgien, voilà, pour le massif.
Donc c'est une histoire de traite. Alors, si tu veux, la traite du soir, en Alsace, on la laisse maturer jusqu'au lendemain.
D'accord.
Et on caille on mélange les deux traites et on caille qu'une seule fois.
D'accord, ouais, ouais.
Et on fabrique, on moule, et par contre, côté vosgien, on fabrique matin et soir.
Ah, d'accord. Donc, quelque part, les ferments lactiques ne vont pas commencer à fermenter
Ça va être un petit peu plus... On va avoir un Géromé un peu plus rustique.
Oui, d'accord.
Plus acide. Le côté Munster est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus... Toi, c'est pas...
Ah, c'est marrant ce que vous dites. Donc, ça veut dire que notre Géromé, qui est un Munster vosgien, lorrain, on peut dire, il va garder un côté aussi un peu plus crayeux, peut-être, que le...
Un petit peu plus crayeux. On va toujours avoir, on va dire, côté Géromé, un cœur de blanc.
D'accord. Ça, c'est intéressant. Et pourtant, à la base, on va dire que peut-être qu'il y a une frontière administrative, mais dans le massif, d'un côté, entre la Lorraine et l'Alsace, quand on est à la frontière, il n'y a pas beaucoup de différence, quand même.
Si on se rappelle, dans les temps anciens, comment est né le Munster et ce fromage, d'abord, en Alsace, il n'y avait pas vraiment de culture, finalement, fromagère.
Oui, oui.
Et la chanoinesse de Remiremont, payait ses impôts aux moines de Munster au fromage, en Géromé.
D'accord.
Et finalement, les moines
l'ont copié.
l'ont un peu copié, mais surtout ont amené la notion d'affinage.
Ah d'accord, alors en fait les Lorrains étaient les producteurs laitiers et les Alsaciens étaient déjà les affineurs comme vous.
Voilà, c'est un petit peu les Alsaciens qui ont apporté un peu les lettres de noblesse et la valeur ajoutée.
D'ailleurs, Cyril Laureau, quand on pense au Munster, vous me disiez affinage, on le mange aussi frais, hein. On peut le manger frais. Alors, dans le repas, le fameux repas macaire.
Le nom de Munster ne peut être donné au produit qu'à partir de 21 jours.
D'accord.
Après la fabrication.
D'accord.
Alors, nous, après c'est une histoire de législation et de mots, de sémantique, nous on appelle ça, moi j'appelle ça du blanc à Munster.
Ah d'accord.
Et quand il est tout jeune dans les fermes, il l'appelle le 6 caisses.
Ah, bah voilà, ça c'est les noms voilà, alsaciens. C'est un peu comme, c'est un peu ce qu'est le l'aligot au layol, par exemple. Hein, ouais, cette tome fraîche, la tome fraîche.
Voilà. En quelque sorte. Ça peut se consommer en tarte, ça peut se consommer comme ça sur des pommes de terre. Ça peut se consommer. Ouais. Moi, je l'aime bien avec, tu sais, un peu de sucre et un peu de kirsch.
Ah ouais, ah oui, c'est bon ça. Ah voilà. Oui, ça fonctionne bien. Mais pour dire plus, donc c'est le fait qu'il soit lavé avec de la saumure, de l'eau salée qui va faire en fait le goût du Munster ou du Giromet.
Ah oui, oui. Alors ça va, les Munsters vont être tournés, lavés tous les jours, ou après tous les deux jours, pardon.
Ouais.
Et on va arriver alors avec un Munster à 3, 4, 5 semaines. À 5 semaines, déjà, il a pris une belle couleur brique.
Ouais.
Et il prend déjà un peu de goût.
Et ouais.
Après, nous, on les garde encore un peu plus longtemps parce que finalement, moi, j'aime les servir à cœur.
Ouais. Alors, et il y a des amateurs.
On a des fromages des fois à 6 semaines, 7 semaines.
Parfois, ils ne prennent pas cette couleur rouge, il reste un rose léger orangé. Pourtant, il y a la puissance. Pourquoi ? Parce que certains mettent des colorants, du roucou, des choses comme ça dans l'eau ?
A priori, non, le roucou n'intervient pas dans la finale.
Mais certains sont bien rouges, et puis d'autres restent un peu rosés.
C'est un ferment spécial, c'est ce qu'on appelle le ferment du rouge.
Ouais.
Mais je pense qu'il est des fois plus ou moins présent sur les lieux de torréfaction.
Ah d'accord. Mais ça n'obère pas le parfum hein, qui est voilà. Vraiment prenant, qu'on adore, et qui ne se communique pas trop à la pâte. C'est-à-dire la pâte reste douce et grasse quand l'odeur est puissante.
Alors, hein. Un bon Munster, il sent pas trop fort, il est puissant.
Voilà.
Il doit pas être
puant.
Il doit pas être un fromage puant.
Ouais, d'accord. Ah ouais.
Moi, les premiers Munsters que j'ai croisés, je les ai croisés à Paris et je peux vous assurer que c'était quand même quelque chose. Et c'était ce que j'appelle aujourd'hui des Munsters parisiens.
Ah oui, c'est-à-dire
les Munsters qui puent et qui sont pas pour moi dans l'harmonie gustative que les Munsters aujourd'hui.
Ouais, ils sont trop forts.
C'est un fromage méconnu aujourd'hui. Finalement, c'est un fromage méconnu.
Eh ben, j'espère que Clément Noël va jeter un coup de projecteur en or, hein, parce que
sur
le Giromet, hein. D'ailleurs, c'est la couleur de. Ça ressemble un peu à une médaille d'or, hein, un Munster.
Ah oui, c'est très
une grosse médaille d'or.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis tu sais, ça fait du bien ce massif. C'est les gens durs, c'est comme les massifs montagneux.
Ouais.
C'est les gens rugueux, c'est les gens qui ont beaucoup d'abnégation. Ça fait du bien des médailles comme ça.
Ah oui,
ça
carrément. Ah, ça, tout le monde était derrière, bien. J'imagine bien. J'imagine bien qu'il va y avoir les cloches des vaches qui ont teinté. Ah,
exactement, hein. et puis une grande fierté, quoi.
Bien sûr. Merci Cyril Laureau. Il y en a un qui nous écoute déjà, un de vos confrères meilleurs ouvriers de France, c'est Pierre Gay, l'Annécien.
Bah, je l'embrasse tout fort.
Il est là. Pierre Gay, vous êtes avec nous ?
Mais bien sûr que je suis avec vous. Je t'embrasse aussi, Cyril.
Ça va, j'espère.
Alors, on disait, merci Cyril, à bientôt. Pierre Gay, on se disait, en écoutant Cyril Laureau, que, bon, effectivement, Clément Noël, il s'entraîne à Val d'Isère. Donc, il y a évidemment un petit peu d'entraînement du côté du massif alpin. Mais ça reste un Vosgien. Pourtant, Pierre, j'ai fait appel à vous, parce que vous êtes donc fromager à Annecy, meilleur ouvrier de France, spécialiste des fromages de montagne. Alors là, ça manque pas. Hein, dans votre coin, en Haute-Savoie, puis en Savoie aussi. Mais surtout, j'ai envie de dire, 50% de l'équipe de France qui est partie à Pékin, 50% de tous les skieurs, étaient des Savoyards, Savoyards ou Haut-Savoyards. Hein. Ça, c'est vraiment le cœur du pays du ski et les fromages qui vont avec. Hein, parce que c'est aussi la gastronomie de montagne, c'est de mettre un peu du fromage partout. Hein.
Ce qu'on dit souvent, c'est un Savoyard, on le met au pied d'une montagne, un vrai Savoyard, il grimpe. Voilà, donc déjà là. Et pour les fromages, c'est la même chose. Si on veut en trouver les bons, et ben on grimpe un petit peu et on trouve des fromages excellents.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début, puisqu'on était avec Jean-Charles Arnaud, puis là avec Cyril Laureau, c'est que l'altitude, elle est bénéfique au fromage. Pourquoi est-ce qu'il y a ce savoir-faire particulier en montagne ? Parce qu'on n'avait pas le choix, c'était le seul moyen de conserver le lait quand on était en haut ?
Alors oui, bien sûr, c'était la première des choses, c'était la conservation du lait, et puis surtout l'affinage des fromages longs permettait, pendant la période hivernale, de garder les fromages et de pouvoir les commercialiser au printemps.
Ah, ça,
c'était,
ouais.
C'était la première recherche sur la conservation du lait, puisque les vallées n'étaient pas ouvertes comme elles le sont aujourd'hui. Par contre, pour la qualité des fromages initiales, c'est vrai que chaque vallée, chaque altitude, chaque orientation de vallée par rapport à au sens des vents, changeront la flore, changeront l'herbage et changeront la saveur des fromages.
C'est pour
cela que sur chaque fromage de montagne, tel fromage issu d'une vallée par rapport à une autre n'a pas la même saveur,
bien sûr.
Même s'il est produit à la même période.
Vous voulez dire que ça suit en fait le biotope, quoi, la flore.
Absolument.
Qui est donnée à manger aux vaches, quoi, aux vaches ou aux brebis ou aux chèvres.
Jean-Charles Arnaud, avec avec le CIGC, donc le groupement interprofessionnel du comté, du gruyère de comté, ont travaillé très longuement sur les territoires avec les herbages.
Ouais, la botanique, quoi.
Ouais. C'est ouais, très ouais. important.
Alors, vous êtes gâté en prairie d'alpage, dans tout votre coin. Vous êtes Annecy, donc c'est plutôt le berceau du reblochon, hein, à côté
oui,
de Thônes, là.
Hein. On est aux portes du berceau du reblochon, exactement, puisque sur l'ensemble des massifs de Haute-Savoie, on a quand même une très très belle carte de fromagère, avec des fromages en appellation d'origine protégée et en IGP, en indication géographique protégée, sans parler des labels, avec les mintales de Savoie qui font partie des fleurons du territoire.
Bien sûr. Alors depuis le début, évidemment, on fait le lien entre nos médailles pékinoises et les terroirs de fromage de montagne. Vous avez été gâté à Annecy avec Johan Claret. Hein,
oui.
Qui a eu la médaille d'argent en descente. En plus, c'est le doyen de cette équipe.
41 ans.
Un bel affinage, hein.
Voilà, 41 ans, il n'y a pas d'âge. On se bonifie. Alors, pour les années, on se bonifie, et pour le fromage, on s'affine.
C'est ça. Et ben, les deux, en ce qui le concerne, il a un petit peu fait oublier la chute en géant de Tessa Worley, hein, qu'on attendait aussi, qui est une fille du pays.
Une
aussi,
Bornandine,
enfin, du coin.
Oui, c'est une Bornandine.
Mais bon, en tout cas, donc, le succès de Johan Claret, il a dû faire autant d'écho à Annecy que tout à l'heure on parlait de Quentin Fillon-Maillet du côté des Rousses. Là.
Bien sûr. Ce sont des gens qui sont omniprésents, j'allais dire, puisque le siège de la Fédération Française de Ski est à Annecy, donc ce sont des gens que l'on croise régulièrement, qui sont des gens particulièrement discrets quand même, les skieurs, par rapport à d'autres sportifs qui ont tendance à bomber le torse. Eux, c'est pas leur cas, c'est plutôt des gens laborieux, travailleurs et puis discrets.
Ouais,
donc c'est toujours très agréable de les croiser.
Bon, Pierre Gay, restez avec moi. On se retrouve tout de suite après la pub pour continuer à parler des fromages de votre belle région de montagne.
Avec plaisir, Vincent.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bon, c'est un marché de fromage de montagne ce matin pour suivre la double actualité de la fin des Jeux de Pékin. Hein, et on a été assez gâtés avec les athlètes français, mais aussi avec les vacances d'hiver, les vacances de neige pour certains d'entre vous, les plus chanceux. Et croyez-moi, la gastronomie du fromage, ça appartient vraiment à ce monde de l'hiver et de la neige, puisqu'on cuisine beaucoup avec les fromages de Savoie, de Haute-Savoie, et je suis depuis tout à l'heure avec Pierre Gay, meilleur ouvrier de France fromager à Annecy, en Haute-Savoie. Alors Pierre Gay, on parlait de ce succès incroyable, de dernière minute, inédit, de Johan Claret, enfant du pays en descente, hein, puisqu'elle a eu la médaille d'argent, à 41 ans, c'est fou. Et vous me disiez, il y a une sorte de métaphore formidable sur le fromage, qui est que le fromage, en s'affinant, se bonifie, devient de meilleur en meilleur, c'est normal à Annecy.
C'est vrai que ça aide. Nous, on est au pied des montagnes. Hein. Tout le monde imagine Annecy avec les snowboots et les mètres de neige. Pas du tout. Nous, on est à 470 mètres. On a la douceur du lac.
Ça, c'est
on
vrai.
A les montagnes en perspective et on a une ville tout à fait charmante et accueillante.
Ouais, enfin, dès qu'on sort, on monte hein, quand même. Hein, vers Thônes, vers le Grand Bornand, vers la Clusaz, vers les Aravis.
Les cyclistes diraient la même chose. Ils attendent l'été avec impatience.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, Pierre Gay. Alors, Pierre, on parlait évidemment de ces fromages d'alpage. Moi, j'aimerais qu'on cite, bien que vous soyez au Savoyard, on peut citer quand même le grand gruyère de Savoie ou de Savoie, qui est le Beaufort. Hein.
Bien sûr, le Beaufort, qui est considéré comme étant le prince des gruyères, qui est un fromage... qui n'a pas autant d'aura que peut avoir le comté au niveau volume de travail. Mais par contre, on n'est pas sur les mêmes productions, territoire de production, bien entendu.
Bien sûr, alors.
Vraiment, c'est un fromage intéressant, bien sûr, le Beaufort.
Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux typicités. Enfin, moi, c'est un fromage que j'aime beaucoup, hein, surtout quand il prend ses arômes un peu d'affinage avec cette morge. Il faut rentrer dans une cave à Beaufort pour comprendre. On a vraiment deux typicités que sont les deux grandes vallées, Maurienne et Tarentaise, quoi.
Maurienne et Tarentaise. Alors, l'origine, c'est même le Beaufortin. Hein. Si on prend le Val d'Arly et on descend sur le Beaufortin, on est vraiment sur ce secteur initial, et bien sûr les deux vallées sont vraiment très distinctes.
Au-dessus d'Albertville en fait, pour faire simple.
Au-dessus d'Albertville pour bien localiser, et puis on a aussi un territoire qui est pratiquement vierge de toute personne humaine, c'est le parc national de la Tête d'Or. Hein. Pardon.
Ah non, là vous êtes à Lyon. Là.
La Tête d'Or, c'est à Lyon, là. J'étais parti à Lyon.
Non, mais
la Vanoise, bien entendu.
La Vanoise, le parc de la Vanoise. Alors là, on parlait tout à l'heure avec vous d'une botanique incroyable, d'une flore exceptionnelle. Là, le parc de la Vanoise, c'est le paradis des fleurs, en printemps et en été.
Voilà, en l'occurrence, elles sont très protégées. Et c'est vraiment un espace. Alors évidemment, on n'est pas en plein cœur du parc de la Vanoise pour produire du fromage. Ouais. Mais sur les périphéries, vraiment... C'est quand même un espace excessivement protégé, et du fait, les fromages ressortent de qualité remarquable.
Tant qu'on ne fait pas du fromage de marmotte, on ne peut pas en faire dans la Vanoise, juste autour.
On en fait, si, avec les bleus de Termignon, par exemple.
Ah, le Termignon, il y a quoi ? Il y a 3-4 producteurs,
Il y a 5 producteurs aujourd'hui, et 4-5 producteurs qui sont... Alors, il n'y a pas un vrai cahier des charges sur le bleu de Termignon, il y a simplement un bouche à oreille qui est transmis de génération en génération sur des toutes petites exploitations. Hein. Il n'y a pas de... Comme dans le Beaufortin, on arrive à trouver des colonies énormes de vaches en regroupement, mais en pâturage. Mais par contre, sur le bleu de Termignon, ça reste très confidentiel.
Bon, je suis d'accord pour le bouche à oreille, mais personnellement, moi, je préfère la bouche. Hein, si je dois choisir où je mets le fromage, plutôt qu'à l'oreille. Mais enfin, bon, il y a sûrement des fromages qui s'écoutent aussi, fermentés. Et puis alors, je voudrais, avant de vous laisser, parce que nous avons été rejoints en studio par Chantal Delamotte, la directrice du Salon du Fromage, qui va démarrer bientôt. On va en dire un mot. Bonjour Chantal. Je termine avec Pierre Guay en disant, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, Savoie ou de Savoie, c'est la profusion de tomes. Alors, on connaît tous la tome de Savoie, mais il faut savoir que chez vous, pratiquement, alors quelques vacherins aussi, mais les tomes, il y en a presque une par massif.
Oui, alors j'allais même être encore plus séquestré là-dedans au niveau de l'appellation. Ouais. Chaque ferme qui produit une tome, bien sûr, si elle rentre dans l'appellation tome de Savoie ou dans l'appellation tome des Bauges, elle correspond vraiment à un cahier des charges strict. Ouais. Sinon, du moment que le fromage correspondre à un cylindre et à une forme bien précise, on l'appelle tome.
Oui, donc chacun peut faire la tome qu'il souhaite s'il est hors appellation, c'est ça que vous me dites ?
Alors oui, bien sûr, elle ne rentre pas dans l'appellation ni tome de Savoie ni tome des Bauges, mais beaucoup de fermes fabriquent de la tome fermière. Voilà. Alors bien sûr, la majorité des producteurs ou des petites coopératives rentrent dans une appellation particulière pour justement avoir une force de diffusion plus importante. Mais nous, on travaille avec énormément de fermiers qui ne veulent pas rentrer ni dans l'appellation tome de Savoie ou parce qu'ils ne peuvent pas rentrer géographiquement dans l'air. Mais on travaille énormément là-dessus. Et toutes les saveurs sont aussi très très différentes, bien sûr.
Bon, écoutez, moi, ça me donne envie, en tout cas, de monter en montagne pour... j'adore le fromage, hein, vous le savez, et puis je ne suis pas le seul. Hein. Tous ceux qui passent, là, tous nos hivernants, là, ils sont bien contents de trouver des plats et puis simplement des beaux plateaux de fromage. Encore un mot pour dire, cher Pierre Guay, vous n'êtes pas sectaire. J'ai pas appelé d'Auvergnat, pourtant, il y a un beau plateau. Je voulais rendre hommage à la médaille de Papadakis et Cizeron, qui sont Auvergnats, hein, nos patineurs. Là aussi, si on s'était mis le nez dedans, il y a souvent une ressemblance entre le Saint-Nectaire et les tomes, cette moisissure grise hein, qui vient souvent à la surface.
Alors oui, tout à fait, mais surtout, le Saint-Nectaire peut être avec croûte grise ou bien simplement emmorgé, sans avoir orangé, un démarrage de...
Et donc, ce poil de chat, il vient aussi sur les tomes.
C'est la première chose qui vient.
D'accord.
Le poil de chat, c'est la première levure qui ressemble à une asperge, et que l'on
va couper
justement pour contaminer un petit peu. Voilà, le poil de chat, le mucor, c'est vraiment un poil qui va sortir, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le poil de chat. Et donc on va le fouler en le frottant pour
le rabattre en quelque sorte.
Le restant du croûtage. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Si ce n'est qu'on ne va pas le presser de la même manière, le Sanecker. On est presque à mi-chemin entre un reblochon et une tome, si on veut y aller au niveau de la.
Oui, c'est vrai. Et même la forme. Même la forme. Hein. C'est absolument. Comme un gros reblochon ou une tome aplatie, quoi, en quelque
exactement.
Sorte.
Exactement. Alors, si vous voulez quand même vous consoler par rapport à ça, étant donné que nous sommes une région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'on a 60% des fromages d'appellation d'origine protégée dans notre belle grande région, je suis à moitié un peu auvergnat quand même.
Ah, bah
et
oui,
j'ai fait mes études
forcément.
En Rillac.
Ah bah voilà. Ah bah voilà.
Et j'ai été meilleur ouvrier de France à Clermont-Ferrand. Donc je suis un peu ouvert.
Ah bah
voilà.
Oui, puis
donc, le Nord est sauf.
Le Cantal, quand on y est passé pour faire du fromage, on l'oublie pas. Hein. C'est vrai que c'est un merveilleux département pour ça aussi. Merci Pierre Gay
avec
dans votre
plaisir,
boutique. Régalez-nous en ce dimanche matin. Je suppose que beaucoup d'Annéciens font leur marché aussi le dimanche.
Hein, ils font leur marché le dimanche, mais nous sommes fermés le dimanche et c'est le seul
jour
d'après-midi où nous sommes fermés.
Bon,
et je suis entièrement à votre disposition ce dimanche.
Votre jour off, je vous rappellerai peut-être après pour discuter fromage. Allez, merci, avec bonne
plaisir,
journée.
Avec plaisir, excellente fin de journée, à très bientôt. Au revoir Vincent.
Chantal Delamotte qui est avec nous. Alors Chantal, je disais, vous êtes la directrice du Salon du Fromage, merci d'être avec nous à nouveau, parce que l'événement va avoir lieu incessamment, en même temps que le Salon de l'Agriculture en fait.
Absolument, on va ouvrir le dimanche 27 février. Pour se terminer le mercredi 2 mars, Porte de Versailles.
Alors voilà, ça suit hein, le calendrier dans le même lieu, Porte de Versailles, c'est-à-dire dans un pavillon différent qui est dédié à cela. Alors, parlez-nous du Salon du Fromage. D'abord, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Hein.
Ah, beaucoup
presque
plus.
15, non ?
17e édition.
17 ! Ouh là là, moi j'en étais resté à 13-14, mais bon,
non, une
c'est parce que je suis jeune.
Voilà. En plus, on ne vieillit pas très longtemps au Salon du Fromage, puisqu'on a lieu seulement tous les 2 ans.
Ouais.
Donc, les années paires. Donc effectivement, on est content de retrouver l'ensemble du monde du fromage qui rassemble 250 exposants. On attend 8000 visiteurs qui sont à 30% européens. Donc c'est vrai que c'est tout ce rayonnement européen de la production fromagère de qualité avec beaucoup d'AOC, puisque effectivement l'Europe a bien insisté sur toutes ces productions artisanales de qualité avec cette labellisation qui montre qu'on est sur des produits agréable.
Alors, soyons
que vous
clairs,
aimez.
oui, on adore. Et même les fromages, d'ailleurs qu'en France, hein, parce que c'est un salon du fromage qui fait la part belle au fromage italien, par exemple, qui est la deuxième grande nation du fromage derrière la France.
Absolument, la deuxième région productrice, hein, avec 50 AOP. C'est vrai qu'on les connaît peu.
Appellations d'origine protégée, qui sont les AOC européennes, en quelque
absolument.
Sorte.
Absolument. Et qui talonnent quand même la France, puisque effectivement, on peut dire qu'on a autant d'appellations que nos amis italiens.
Ouais, un peu plus. 52, non ?
52, oui.
Voilà,
c'est ce qui fait la différence.
Le nombre de semaines, c'est ça, en fait. Hein,
voilà.
Fromage par semaine.
Mais c'est vrai que le fromage italien est de plus en plus apprécié en France, hein, par notre évolution sur les pâtes cuites, mais aussi, bien entendu, la burrata, la mozzarella, qui sont tous ces produits qui rentrent beaucoup dans notre alimentation quotidienne.
Oui, alors, peut-être que la diversité, en fait, des fromages français, s'il faut tirer une conclusion à cela et faire une différence entre les deux pays, c'est que la grosse proportion de fromage, de vente de fromage, de production laitière italienne, elle passe dans les grands fromages que sont le Parmigiano, le Grana, la Mozzarella.
Le Taleggio.
Le Taleggio aussi. Enfin, ça
draine. Gorgonzola aussi, un petit peu.
Ah ben, un peu de Gorgonzola. Moi, j'adore ça, le Gorgonzola.
Voilà.
Quel beau fromage à pâte persillée. Toujours est-il que, voilà, quelques appellations trustent l'ensemble. Remarquez, chez nous, hein, quand on parle d'Emmental et notamment les Emmental qui sont faits, même en région ouest, hein, en Bretagne notamment, c'est vrai que ça draine aussi pas mal de la production laitière. Donc, les Italiens sont présents, évidemment le Parmigiano-Reggiano.
Absolument. Qui reste avec le Consorzio et tous ces producteurs qui sont derrière avec beaucoup de qualité et de produits différents. Hein. Même sous une même appellation, on a des travaux qui donne un produit d'exception à chaque fois.
Chantal Delamotte, il faut être clair pour ceux qui nous écoutent, c'est un salon professionnel.
Hein, absolument.
C'est-à-dire qu'il est accolé au Salon international de l'agriculture, il n'en fait pas partie.
Non.
Hein, c'est un peu comme une dépendance.
Absolument, voilà.
Hein, puisqu'il est organisé en même temps, tous les 2 ans, comme vous le disiez. Pour autant, il s'adresse à qui alors ?
Bah, il s'adresse essentiellement à la distribution, c'est-à-dire les fromagers, qui permettent aux consommateurs de découvrir tous ces produits riches et qu'ils peuvent acquérir. Et donc, effectivement, on est ouvert le dimanche parce que les commerces de bouche sont souvent fermés le dimanche et le lundi.
Bon, restez avec moi, on va passer une petite une séquence de publicité et on se retrouve pour détailler encore un petit peu ce salon du fromage, ça me donne faim.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Oui, on continue de faire le marché, ce marché de fromage en liaison avec l'actualité pékinoise. Oui, enfin, fromage pékinoise, pas très connu. En revanche, si je vous dis que la majorité de nos athlètes olympiques, évidemment, viennent de grandes régions fromagères de montagne, que sont le Jura, on était avec Jean-Charles Arnaud tout à l'heure, que sont le Massif Vosgien, Cyril Lowe, meilleur ouvrier de France à Strasbourg, qui nous en parlait. À l'instant, on était avec Pierre Guay d'Annecy, avec évidemment tous ces athlètes savoyards ou savoyards. Et je suis avec Chantal Delamotte, la directrice du Salon du Fromage, parce que c'est dans un peu plus d'une semaine, là, ça démarre et c'est à la Porte de Versailles à Paris pour les professionnels. Chantal, on est bien d'accord, hein ?
On confirme, pour les professionnels.
Hein, pour les professionnels. Alors, si vous voulez vraiment y aller, si vous êtes un mordu de fromage, c'est-à-dire qu'il faut mordre la croûte avec, hein, si vous êtes un mordu de fromage, vous pouvez encore vous faire inviter par votre détaillant, par une marque de fromage, par une coopérative, que sais-je. On peut trouver peut-être des places comme ça si on est vraiment, vraiment passionné.
Ah bah si on est vraiment passionné, oui, mais il faut être invité.
Voilà, il faut être invité, bah oui, mais si vous savez vous tenir dans le fromage, hein, pas manger tout ce que vous voyez dès que vous le voyez, un peu comme moi, bah peut-être vous trouverez des invitations. Alors Chantal, on l'a dit, 300 exposants environ, même plus ?
Oui, 300 exposants.
Oui, 300 exposants, largement des producteurs de fromage qui viennent présenter leurs produits aux détaillants qui vont être les visiteurs, hein, pour faire simple.
Absolument.
Hein, je dis détaillant, bon, ça peut être un peu
ça
plus
peut
large.
Aussi les restaurateurs.
Oui, ah oui, hein, vous avez
grand
des...
marché.
Ah,
oui,
bah, oui, oui, bah, parce qu'on parlait
finalement,
de.
Aujourd'hui, le plateau, c'est un point important de la dégustation de fromage dans l'alimentation française. Oh, ouais, et le plateau, on le mange chez nous, mais également en restauration.
Oui, puis on parlait aussi des fromages italiens qui sont très à l'honneur. Voilà. On se doute bien que tout le monde des pizzaiolo va être intéressé par venir voir ce que proposent les Italiens.
Absolument.
Tant en mozzarella qu'en burrata. Qu'en grana, qu'en parmigiano, évidemment, pour les trattorias et les pizzerias, c'est important. Bien, Chantal, mais il n'y a pas que ça, hein, pour ceux qui nous écoutent, et il y a aussi un concours. Parce qu'on parlait des médailles olympiques, on parlait des médailles du concours agricole au Salon de l'agriculteur qui était à côté, on parlait de la médaille de Jean-Charles Arnaud, meilleur fromage du monde, le comté qui a gagné devant plus de 1000 fromages. Eh bien, il y a aussi un concours au Salon du fromage.
Oui, il y a plusieurs animations, dont effectivement des concours. Il y a aussi une sélection de produits avec les coups de cœur, mais il y a deux concours, effectivement, autour du plateau de fromage et autour des meilleurs fromagers.
Les meilleurs fromagers, les meilleurs artisans. Et j'ai justement avec nous en ligne, que vous connaissez bien Chantal, c'est David Bazer, qui est le délégué général de la FFF. Alors, ce n'est pas la Fédération Française de Football, hein, ça ne viendrait pas ici. C'est la Fédération Française des Fromagers. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce dimanche matin.
Merci.
On a déjà tenu depuis plus de trois quarts d'heure, là, sans croquer dans un morceau de fromage. Je peux vous dire, ça commence à donner très envie. Alors, racontez-nous en quelques minutes, qu'est-ce que c'est la Lyre d'Or ? Quel est donc ce concours ?
Alors, la Lyre d'Or, c'est en fait le concours du plateau de fromage des crémiers fromagers.
Oui.
C'est un concours qui est dans sa 8e édition et qui aura donc lieu dans une semaine, qui a lieu donc tous les deux ans durant le Salon du fromage et des produits laitiers. Et c'est un concours qui a vocation à révéler les talents chez les crémiers fromagers. Vous parliez d'athlètes. C'est effectivement complètement cette logique-là. Et là, on a choisi un thème un peu en tiroir cette année, puisque il y a trois sujets en un. C'est les plateaux d'aujourd'hui et de demain.
Oula, c'est large, hein. Si c'était une dissertation du bac, je verrais les têtes de mes enfants faire « Oh là là
!» Alors en fait, c'est intéressant parce que à travers ce sujet-là, il y a trois réalisations à faire par nos 16 candidats crémiers fromagers. Un plateau de fromage traditionnel, donc là c'est le quotidien du crémier fromager. Sa vision du plateau de demain, donc l'idée c'est de nous surprendre, d'innover et de montrer que Le fromage, c'est à la fois très traditionnel, mais on peut aussi le présenter
créatif,
de façon très créative dans un véritable écrin au niveau esthétique. Mmh. Et le troisième thème, c'est celui de la fabrication d'une préparation fromagère.
Oui.
C'est particulièrement vrai chez les crémiers fromagers. Mmh. Ça montre le caractère artisanal et le fait que quand on va chez son crémier fromager, eh bien, on peut aussi avoir des produits faits maison qui sont à la patte du professionnel.
Du sur-mesure, hein, serait par exemple, je sais pas moi, du Bibelskas, de la cervelle de Canu à Lyon. Enfin, disons, on se sert de matière première fromage pour faire quelque chose, cuisiner faire un peu
pour
le traiteur.
Ouais. C'est ça.
Alors, si je comprends bien, quand on parle de plateau d'aujourd'hui et demain, moi, je vais vous dire un mot qui va peut-être vous faire frémir, hein, mais je le vois de plus en plus, c'est Instagrammable. Parce qu'aujourd'hui, les fromagers, ils font un travail sur le look de leur plateau absolument incroyable. Ils sont très Instagrammables.
Tout à fait, effectivement. Le plateau de fromage, c'est très esthétisant et on travaille effectivement pour rendre le fromage encore plus
visuel,
adapté, plus visuel et qui plaise à toutes les générations.
Bah oui, parce que quand on rentre chez son fromager, bien sûr, il y a le parfum, hein, mais tout se mélange un peu, donc l'apparence est très important et ça renseigne sur la qualité. Merci beaucoup, David Bazer.
Merci à vous.
On souhaite beaucoup de courage et de créativité pour tous ces fromagers affineurs, crémiers de la Fédération. Alors, il faut dire qu'il y a à peu près moitié de Parisiens, enfin Île-de-France et moitié région. Bah, ça va être très disputé, on suivra les résultats, on les donnera ici à l'antenne.
D'accord,
merci et bonne journée à vous.
Au revoir.
Alors, j'ai quelqu'un en ligne, Chantal, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cuisine au fromage. Et quand on parle de fromage, on parle de fromage, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Eh bien, justement, j'ai avec moi un jeune chef, Romain Cazas. Bonjour, Romain.
Bonjour.
Ouais, je voulais vous passer un petit coup de fil ce matin parce que vous venez d'ouvrir à Paris, dans le 11e arrondissement, un restaurant qui s'appelle Deux. Alors, expliquez-nous pourquoi. C'est parce que vous n'êtes pas seul.
Exactement, donc on est deux associés, on est deux jeunes trentenaires, donc moi-même et Tiffaine, mon associé.
D'accord, alors écoutez, ça tombe bien parce que vous êtes, on m'a dit que vous êtes Béarnais, hein, donc vraiment du 64. Hein, et justement, on n'a pas parlé d'athlètes pyrénéens, il y en a aussi dans l'équipe de France, heureusement, hein, parce que c'est un grand territoire de montagne. Et alors votre spécialité chez Deux, c'est la cuisine au fromage.
Alors, notre spécialité chez Deux, ça va être la cuisine française, où on va mettre en valeur nos deux terroirs.
Ouais.
Et effectivement, on aime bien mettre en valeur aussi les fromages de nos régions.
Parce qu'elle est d'où, Tiffaine ?
Tiffaine, elle est de Savoie.
Ah bah voilà. Entre Savoie... Alors, vous faites le mariage des Alpes et des Pyrénées, vous, alors ?
Exactement.
Et alors, il y a un truc qui m'a donné vraiment envie. Je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, mais vous faites des sortes de beignets comme des croquetas. Hein, vous n'êtes pas très loin de l'Espagne. Des sortes de croquettes au fromage.
Exactement. Alors, on fait des croquetas au chorizo Ibayama du Pays Basque.
Aïe, aïe, aïe.
Avec un cœur coulant au Beaufort.
Bien vu. Voilà, encore le mariage du 64 et du 73, hein, qui est un peu l'idée aussi chez vous. Comment vous le préparez le fromage de chez vous, justement, si on réfléchit, je sais pas, derrière chez vous, il y a l'osso irati et puis il y a tous ces fromages basques, les ardigasna, etc. Vous les utilisez au quotidien, Romain Cazas, chez Deux?
Alors, on les utilise effectivement. Donc, on change régulièrement la carte toutes les 6 à 8 semaines.
Ouais.
On change un peu les plaisirs, on change le fromage. Et par exemple, en ce moment, on fait un truc hyper sympa. On a deux jeunes au Pays Basque à Aix, à côté d'Irati, qui nous font une pâte préfécute, qui nous font comme un emmental au Pays Basque.
Un emmental basque.
Ouais, exactement.
Ah, alors là, c'est intéressant avec de la vache basque, quoi. Voilà.
Exact.
Super.
Oui.
Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Jean-Charles Arnaud, le pape des comtés aux Rousses. On expliquait pourquoi les émmentales ont des trous et pourquoi les comtés n'en ont pas, histoire de fermentation, de dégagement gazeux. On viendra goûter le basque chez Deux. Merci en tout cas d'avoir été avec moi ce matin. Vous êtes dans le 11e, hein, c'est ça, on peut le rappeler.
Exactement, oui.
Ah bon. Et vous êtes ouvert toute la semaine ? ou pas ?
On est ouvert du mardi soir au dimanche.
Ah bah très bien, ça tombe bien. Alors parce que je me disais, après l'émission, là, pour le déjeuner du dimanche, je vais peut-être venir croquer dans une croquette. Une croquette de fromage, ça ferait plaisir. Allez, bonne journée. Retournez en cuisine, j'arrive. Hein ?
On y va,
on vous attend. Merci, allez, à tout à l'heure. Merci Chantal Delamotte. On rappelle les dates du Salon du fromage à la Porte de Versailles pour les professionnels qui nous écoutent ?
Bah, dimanche 27 février. Au mercredi 2 mars.
Bon, c'est pas très difficile. Si vous voyez les dates du Salon de l'agriculture, grosso modo, c'est collé. Hein ?
Absolument.
C'est collé. Et pendant que vous irez voir les vaches, d'autres iront voir les fromages qui en sont issus. Enfin, je dis les vaches, mais les brebis,
les chèvres. La qualité
de
la vache, la qualité du lait, c'est important dans la création du fromage.
Il n'y a pas de fromage vegan au Salon du fromage, du fromage de soja ou choses comme
encore,
ça ?
Pas encore.
Non, bah écoutez, bon, allez, vous avez le temps pour ça. Merci Chantal. Voilà. Les amis, en attendant notre rendez-vous de dimanche prochain à 10h pour faire ensemble notre marché, bah moi je vous invite, que vous soyez en vacances ou non, hein, d'ailleurs, à vous plonger dans les croquettes, comme moi tout à l'heure, dans la raclette, dans la fondue, hein, qu'elle soit suisse ou savoyarde, dans la boîte chaude, ça c'est du côté de la Franche-Comté avec un bon vacherin, hein, ou alors dans les gratins divers et variés. Ah oui, ça manque pas de cuisine au fromage. Après le journal, on retrouve Alexandre Devecchion en toute vérité et tout de suite après, c'est ça la France de Nathalie Schrein-Guirma. Allez, à la semaine prochaine et restez sur Sud Radio, comme ça, je suis certain de vous retrouver la semaine prochaine.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.